Philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 16 avril 85.
Manière de vous dire bonjour hein, ou de faire un cours. J'espère que tous vont bien et que la grâce de l'Alléluia de Pâques continue. Alors nous allons continuer, nous reprenons le semestre, nous commençons le semestre, le trimestre d'été. Vaut-il mieux surtout écouter un cours et le vivre en même temps que le professeur plutôt que d'écrire beaucoup et ne pas comprendre profondément ? L'alternative est excellente. Hein. Tu sais, c'est comme le père Gardeil, qui au début de la structure de l'âme dit il y a deux manières d'écrire un livre. D'une manière profonde et obscure, d'une manière claire et superficielle. J'opte pour la première. Alors, c'est vrai que souvent quand on veut faire quelque chose de profond, ça devient obscur. Et que quand on fait quelque chose un peu superficiel, on fait quelque chose de clair. L'idéal, ce serait d'arriver à une certaine lumière dans la profondeur. Alors, vous voyez, répondons ici, c'est très bien, c'est une petite question de méthode. Je disais souvent à Fribourg, on est auditeur d'un cours, on n'est pas scriptores. On est auditeur, on écoute un cours. On lit un livre et on écoute un cours. Et ça, je crois que c'est très important. Surtout aujourd'hui, où il y a des cassettes, ou alors, pratiquement, ça nous aide, ça doit servir. Hein. Je crois que c'est... Il y a toute une nouvelle manière, un peu, dans l'enseignement, par le point de vue des cassettes, qui doit faire que les cours qu'on écoute, on doit les écouter avec le plus grande attention possible et prendre des notes pour mieux écouter. Parce que certains ont besoin de prendre des notes pour mieux écouter. Et puis si tout d'un coup, n'est-ce pas, deux silex qui se rencontrent, la parole du professeur est... Celui qui écoute, ça fait quelquefois des éclairs extraordinaires. Alors qu'on les écrive. Ça m'a éclairé sur ce point-là. Ça, je crois que ça peut être bon. D'écrire pour mieux écouter. Mais il ne faut pas que les cours soient le lieu où l'on écrit en disant « je ne comprends rien du tout, ça n'a pas d'importance, j'écris ». Au moins je travaille, hein, plutôt que d'écrire beaucoup et de ne pas comprendre profondément. Alors vous voyez, ça, je biffe ça. J'espère que personne d'entre vous n'écrit beaucoup et ne comprend pas profondément. Je crois qu'il faut essayer de suivre un cours. On suit un cours. Donc on essaie de le comprendre. C'est pour ça que je crois que les cours ne seront jamais remplacés par le livre. Le cours a quelque chose d'unique. C'est qu'on est en présence de quelqu'un qui normalement pense. En acte. Vous voyez ? Qui pense en acte. Et qui découvre en acte avec vous ce qu'est la philosophie. Ce qu'est une pensée philosophique. Alors, je crois qu'à ce point de vue-là, ça c'est bon. D'essayer de se faire actuer sa propre pensée par le cours. On l'écoute, on essaie de comprendre. Si on ne comprend pas, on met des points d'interrogation. Pendant le cours, on peut très bien mettre certaines questions. Je vous ai dit, chaque mois, nous faisons une goutte de lait dans la mesure où il y a des questions qui se posent. Et je crois que c'est là, pendant le cours, où quelquefois il y a des questions qui se posent. Alors on pose une question, quelquefois sera éclairée 10 minutes après. Et c'est très bien de l'avoir posée. Et c'est bon, quelquefois, d'écrire des questions. Ça nous aide à progresser. Et parce que écrire, ça fixe la pensée. Ça oblige de préciser. Alors, où, en écoutant le cours, il y a des interrogations. En écoutant le cours, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On le note. Puisqu'il y a un parrainage qui doit continuer normalement. Et dans le parrainage, on est là pour essayer de profiter le plus possible des cours. Ou soi-même, on ajoute certaines choses. Alors on prend des notes. Et vous voyez, ce sont des notes complémentaires. Ce n'est pas prendre matériellement le cours. Je crois que ça ne sert pas à grand-chose de prendre matériellement le cours. Vous avez les cassettes, vous avez la possibilité de vous référer aux livres qui vous aide quand même pour reprendre les choses. S'il n'y avait absolument rien, je vous dirais oui. Alors notez, écrivez. Il y a des professeurs qui dictent leurs cours. Je ne crois pas du tout que c'est le cours, que c'est le but d'un cours, de dicter un cours. Je ne crois pas. Ça peut se faire. C'est très bien. Mais au fond, je ne crois pas du tout que c'est le but, surtout en philosophie. En philosophie, ce qu'il faut, c'est éveiller la connaissance, éveiller l'esprit. Vous voyez, c'est le but avant tout et en premier lieu, c'est de faire que nous devenions intelligents. Selon les exigences profondes de l'intelligence, la philosophie n'a pas d'autre but que ça, hein, d'éveiller l'intelligence humaine. Et chacun dans le sens où on est intelligent. La philosophie doit être quelque chose qui est à la racine même de l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui s'éveille. Intus legere, comme dit saint Thomas. Et saint Thomas aime bien dire ça, on sent très bien. Lire de l'intérieur. Et ne pas regarder les choses de l'extérieur. Regarder les choses de l'extérieur, c'est le regarder selon le conditionnement de la vie intellectuelle. C'est notre manière de raisonner. Il faut savoir raisonner. Il faut pouvoir avoir une logique qui est nécessaire. Il faut réfléchir pour comprendre le cheminement de notre pensée. Il y a quelque chose de plus profond. Alors là, qui ne peut, je crois, s'acquérir que pendant les années de formation. Les années de formation sont faites pour ça. Revenir à la source. La source, c'est l'intelligence, dans le sens profond, qui s'éveille. Qui s'éveille devant son regard vis-à-vis de la réalité. Découvrir le réalisme de l'intelligence. L'intelligence a besoin de cette expérience avec nous-mêmes, avec l'autre, pour progresser et découvrir ce que c'est que l'homme. Puisque c'est ça la philosophie, c'est découvrir ce que c'est que l'homme. Ce n'est pas raisonner indéfiniment sur nos concepts, sur nos rationes. C'est très bien, il faut le faire. Mais c'est second, c'est pas premier. Ce qui est le plus important, c'est de découvrir ce que c'est que l'homme, dans ses diverses dimensions. Et toute la philosophie consiste justement à découvrir ces dimensions profondes de l'homme. Et en définitive, découvrir que la dimension ultime de l'homme, ce sera de découvrir que l'intelligence humaine est faite pour saisir ce qui est en tant qu'être. Découvrir la philosophie première, ce que nous faisons. Nous essayons de découvrir ce que c'est que la philosophie première, qu'est-ce que ça représente la philosophie première, qu'est-ce que c'est que cette réflexion fondamentale de l'intelligence. Cette réflexion qui est si souvent enfouie que de fait, ce n'est plus dans le marché. Raisonnement de la faculté de Fribourg, La philosophie première, la métaphysique, n'est plus dans le marché, donc n'en faisons plus. Et le pape nous demande de maintenir ça. L'Église. Paul VI, qui, comme tout le monde savait, n'avait pas fait beaucoup d'études, mais qui était remarquablement intelligent, parce qu'il n'avait pas eu beaucoup de santé, et donc il avait passé au-delà de tous les séminaires. C'est un cas très très particulier, Paul VI. Mais ça, c'est vrai que Paul VI avait fait très peu d'études classiques. Mais tout le monde avait reconnu son intelligence extraordinairement pénétrante. Et c'est vrai, il avait une intelligence, une pénétration remarquable, Paul VI. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup frappé, ça. Et Paul VI est peut-être un des papes qui a insisté le plus sur l'exigence de la philosophie première. Quand il disait les mercredis, la nécessité pour l'intelligence de redécouvrir comment elle remontait jusqu'à la source, jusqu'au Créateur, jusqu'à Dieu. Et au fond, c'est pour ça qu'on fait de la métaphysique. C'est pour comprendre que l'homme est fait pour un dépassement de l'univers. Et un dépassement même de l'homme. Que l'homme ne peut pas s'arrêter à l'homme. Que l'homme a en lui un appel souterrain, très très profond, que dès qu'il touche une réalité qui existe, il y a en lui un appel vers quelque chose de plus. L'analyse métaphysique que nous essayons de faire, que nous faisons comme une analyse très particulière, puisque c'est une analyse qui implique toute une méthode analogique qui est très spéciale, cette analyse métaphysique aboutit normalement au problème de la personne humaine, et le problème de la personne humaine aboutit à se poser la question, existe-t-il une réalité au-delà de la personne humaine ? Et à partir de là, on entre dans la sagesse. Et vous voyez, nous faisons exprès deux cours parallèles ici, j'espère que vous avez remarqué, parce que c'est quand même important, je le redis, parce qu'il faut le redire tout le temps, et puis il faut comprendre un peu la diversité de la philosophie et des méthodes philosophiques. Il y a une très grande unité en philosophie, mais il y a en même temps une très grande diversité. C'est ce qui fait la difficulté, mais ce qui fait aussi l'intérêt. Parce que je crois que toute forme d'intelligence peut se découvrir à l'intérieur de la philosophie. Il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence. Vous voyez, en mathématiques, il y a une forme d'intelligence. On est matheux ou pas. Il y a des gens qui ne comprennent rien en mathématiques, ne comprendront jamais rien. Bon. En logique, c'est un peu comme ça aussi. Il y a des esprits qui seront... Bon. En philosophie, non. Il y a une diversité. Et on peut trouver, chacun d'entre nous, le lieu propre où notre intelligence se trouve plus à l'aise, où elle peut se développer davantage. C'est du reste la difficulté d'enseigner la philosophie sous ce point de vue-là, parce qu'on a quand même tous un peu sa spécialité. C'est impossible autrement. L'être humain aime d'être un spécialiste pour être imbattable. Or, c'est juste l'inverse, la philosophie. C'est d'être accepté, d'être toujours battu. Parce qu'on laisse la réalité passer devant nous. On ne veut pas la dominer. Donc on est tout le temps en recherche. On accepte d'être tout le temps en recherche. Et plus on avance, plus on essaie de comprendre ce que c'est que ce cheminement d'intelligence humaine, qui est quelque chose de très particulier, hein, parce que c'est la réalité qui nous conduit, c'est l'homme qui nous conduit. Vous voyez, quand le Saint-Père dit que l'homme est la route de l'Église, je peux dire l'homme est la route de la philosophie. Pas de la même manière, mais il est la route de la philosophie. C'est que la philosophie doit étudier l'homme dans toutes ses dimensions, et arriver à saisir ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions. Alors, forcément, s'il comprend qu'il faut saisir l'homme dans toutes ses dimensions, il va saisir la diversité de ses dimensions. Et notre forme, notre intelligence va découvrir ou une forme plus spéculative ou une forme plus pratique, en évitant toujours de tomber dans une vision univoque, uniforme, l'idéalisme, la dialectique ou un aspect positiviste. Ça nous guette toujours. Alors il faut arriver petit à petit à découvrir ce que représente cet aspect particulier de la philosophie qui est propre pour chacun d'entre nous. Il y a une philosophie, philosophia perennis. Bon, il y a une philosophie qui, de fait, objectivement, peut être étudiée par tout le monde. Mais je crois que la philosophie touchant ce qu'il y a de plus profond dans l'intelligence humaine, forcément, chacun d'entre nous, nous avons une manière d'exprimer ça. Et c'est ça qui serait très beau, vous voyez, d'arriver petit à petit. On ne peut pas imposer, et il ne le faut pas, on retomberait dans le primat de la méthode. Et le primat de la méthode est anti-philosophie réaliste. Et le primat de la méthode, c'est très très commode, parce que quand on a une méthode, ça y est, maintenant ça va. Je peux passer tous les examens possibles, j'ai ma méthode. Faites ça pour les examens. C'est nécessaire pour les examens d'avoir une méthode. Mais pas pour la vie. Pas pour la vie. Pour la vie, il faut garder cette souplesse de l'intelligence humaine qui recherche ce que c'est que l'homme. Oui, c'est la très grosse différence de la philosophie avec la science. C'est la très grosse différence. Parce que c'est cela, je crois, qui est caractéristique à la vie de l'intelligence. La vie de l'intelligence a ceci de tout à fait particulier, c'est qu'elle garde une souplesse constante par rapport à la réalité qu'elle veut atteindre. Et la réalité qu'elle veut atteindre, c'est l'homme. Et dans l'homme, l'esprit. Dans l'homme, son intelligence. Alors, on saisit l'intelligence dans son cheminement et on saisit l'intelligence dans son auto-lucidité, sans tomber dans une espèce de réflexion qui ferait qu'on ne voit plus que la vie de l'intelligence, oubliant ce que l'intelligence doit saisir. Il y a un petit moment là qui est très difficile et qui est très important. Parce qu'autrement, on retombe forcément dans des perspectives qui ne seraient plus le réalisme. Vous savez, le réalisme, c'est ce mot d'ordre que donne saint Thomas, primo cadit in intellectus, ens. Si saint Thomas a répété ça 175 fois dans son œuvre, c'est pas pour rien. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ce qui est. Saint Thomas ne dit pas ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'intelligence qui se réfléchit sur elle-même. Pas du tout. Quand l'intelligence se réfléchit sur elle-même, elle ne saisit rien de plus que l'intentionnalité. Vous savez bien, ça c'est le petit déjeuner dans l'ordre de l'intentionnalité, c'est quand vous avez le ventre vraiment vide et vous passez devant une boulangerie à 5 heures du matin. Ça sent bon, merveilleux, extraordinaire. Vous faites un petit déjeuner intentionnel. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ça ne vous nourrit pas beaucoup, ça excite l'appétit, mais ça ne vous nourrit pas beaucoup. Alors vous n'avez qu'une seule solution à ce moment-là, c'est de frapper à la porte du boulanger. « Ça sent si bon, monsieur le boulanger, donnez-moi un petit pain. » Et c'est normal, s'il voit un moine faire ça immédiatement, « Oh, je vous donne un pain. » Et alors à ce moment-là, vous comprenez la différence entre l'intentionnalité qui vous a conduit au pain, vous voyez. Mais faites attention, il y avait autre chose, manger le pain et humer l'odeur du pain. Primo cadit in intellectus ens, ce qui est. Ce qui est, c'est l'homme existant. C'est ça qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et ce n'est pas, premièrement, cette attitude réflexive. C'est évident que le propre de l'intelligence, c'est d'avoir la capacité de se réfléchir sur elle-même. Ça, c'est le propre de l'intelligence. Or, on aime toujours mieux ce qui est propre. Notre petite originalité. Et l'intelligence, quelquefois, a cette espèce de caprice de se réfléchir sur elle-même et de dire c'est ça qui est le premier. Ah non. Oui, c'est là le dépassement constant par rapport à cette séduction de l'idéalisme. Et je crois que la philosophie doit nous donner ce réalisme dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre pratique. Dans l'ordre pratique au niveau éthique, vous avez un exercice tous les jours de ce que représente le point de vue moral. Puisque tous les jours vous vous levez au règlement dit, quand la cloche sonne, il n'y a pas de cloche mais il y a le réveil qui sonne, il y a quelque chose comme ça, vous vous réveillez, à ce moment-là vous faites un acte moral. Vous faites un acte de volonté. Tous les jours, vous êtes dans ce réalisme philosophique. Primo cadit in intellectus ens. Rappelez-vous ça quand vous vous réveillez. Hein? Cette réalité, il faut se lever. Faites un petit acte héroïque, l'imperium. Je veux me lever. Tous les jours, vous faites un acte au niveau du facere. C'est évident. Prendre des notes. Astucieusement, n'est-ce pas ? Ou faire un peu de cuisine, astucieusement, ou faire de la minette, travailler au point de vue d'un chantier, c'est du facere. Essayez de plus en plus d'avoir ce réalisme dans tout ce que vous faites. Ça, c'est très très grand. On ne fait pas de la philosophie uniquement dans un laboratoire. C'est ça l'immense avantage de la philosophie, c'est que la philosophie est présente à toute notre vie. Et comme la philosophie est présente à toute notre vie, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pour un apôtre, c'est merveilleux. Parce que c'est le laboratoire du contact avec les autres qui vous remet tout le temps sur vos pieds et qui vous oblige justement d'aller jusqu'au bout. On fait de la philosophie pour l'homme, on ne fait pas de la philosophie pour faire de la dentelle. Non, 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 non. Laissez les vieilles bretonnes faire de la dentelle, n'est-ce pas ? Mais en fond, on ne fait pas de la philosophie, on ne fait pas de la dentelle en disant qu'il faut ciseler ça d'une façon. Et à quoi ça sert ? Ah, pour que ce soit bien ciselé. Mais non. Vous voyez, l'esthétisme philosophique, ça repense tout le temps, vous savez. Toujours ce point de vue idéaliste qui reprend. On fait de la philosophie pour l'homme. Alors, il faut la vérité. Il faut chercher la vérité le plus qu'on peut et la manière la plus profonde qu'on doit essayer de la saisir. Mais donc, c'est important de se rappeler ça au point de départ. Hein. Alors, je vous disais tout à l'heure, nous faisons deux cours qui doivent être complémentaires. Le jugement de sagesse et l'analyse philosophique. Le jugement de sagesse, c'est l'intelligence qui, ayant découvert l'existence de l'être premier, dans la lumière du Créateur, de l'acte pur, essaie de comprendre ce qu'est l'homme. Jugement d'existence, de sagesse. Et puis l'analyse proprement philosophique, qui essaie de comprendre les déterminations fondamentales de ce qui est. Et donc de l'homme. Comprendre ce qu'est l'ousia, cette grosse bête, l'ousia, c'est-à-dire ce qu'est la substance, comme principe radical de toutes les déterminations. Puis comprendre ce que c'est que la qualité, puis comprendre ce que c'est que la relation, puis comprendre ce que c'est que la quantité. Puis ensuite, on essaiera de comprendre ce que c'est que l'acte. Les déterminations foncières, les grandes arêtes qui sont présentes en nous et qui sont présentes dans toutes les réalités. Tout ce qui est implique des déterminations dans l'ordre de ce qu'il est. Tout ce qui est, que je peux expérimenter, implique acte et puissance, implique substance et accident, implique une certaine unité, une certaine multiplicité. Alors, vous voyez, ça, c'est l'analyse de la réalité que nous pouvons expérimenter, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire notre voisin. Nous faisons l'analyse métaphysique. Ça ne dérange pas beaucoup de faire l'analyse métaphysique de votre voisin. Oui, ça, c'est... Il n'y a pas de proclamation dans l'ordre métaphysique. Alors, c'est très calme, très paisible. Je me sers de mon voisin pour avoir le prototype de l'homme à côté de moi. Je le vois mieux chez le voisin, la quantité du voisin. Ma quantité, je la vois, mais la quantité du voisin, je la vois encore beaucoup mieux. C'est vrai, ça. Il prend de la place. Et je m'en aperçois. Ou bien au contraire, il est tellement mince que moi à côté j'apparais gros. Alors, il me gêne, je fais la comparaison, c'est sûr, la quantité, le domaine de la quantité. Réfléchir sur le domaine de la quantité. En vie commune, c'est très facile. C'est vrai, en vie commune, c'est très facile de réfléchir sur le domaine de la quantité, parce que ça se voit tout le temps, le domaine de la quantité, en vie commune. Il n'y aurait pas de vie commune s'il n'y avait pas de quantité. La vie commune, c'est le domaine du conditionnement. Et la quantité, c'est ce qui conditionne, en premier lieu. Mais s'il n'y avait pas de quantité, vous ne pourriez pas additionner. Alors vous allez me dire, ah, les anges, on les additionne. Oh, attention, hein. Je ne sais pas comment on les additionne, les anges. Oui, on vous parlait des myriades d'anges. Ah oui, mais ça, c'est très particulier. Il n'y a pas de régiment d'anges. Jamais additionner les anges. Alors évidemment, c'est très difficile de savoir qu'est-ce que ça représente. Le nombre des anges, c'est difficile. La question qui m'était posée hier, des jeunes qui se disaient, les anges. Parce que les jeunes se reposent la question des anges. Vous voyez, c'est le jour où les jeunes ne le posent plus, les jeunes la reposent. Enfin, c'est bien intéressant, parce que personne n'en parle, donc c'est une bête curieuse. Les anges. Est-ce qu'on peut, nombrer les anges? Qu'est-ce que ça veut dire nombrer les anges? C'est pas si commode, c'est purement qualitatif les anges. Les anges n'ont pas de vie commune. Bien heureux les anges. Ils n'ont pas de vie commune. La vie commune, c'est la quantité. Alors c'est pas étonnant, vous voyez, de temps en temps vous trouvez que la vie commune c'est lourd, parce que vous êtes angélique. Dites-vous bien ça, c'est le petit ange en vous qui dit, mais non, la vie commune, c'est quand même lourd, c'est lourd la vie commune, c'est pas commode du tout. C'est vrai, l'esprit comme esprit a beaucoup de peine d'accepter la vie commune, parce que c'est la quantité. On est conditionné par la vie commune. Je ne parle pas de la charité, hein. Je parle de la vie commune. C'est pas la même chose. La vie commune, c'est nécessairement une partie à côté d'une partie pour faire un tout. Or, l'esprit n'aime pas d'être une partie. Il n'aime pas ça du tout. C'est très désagréable pour l'esprit de dire, vous allez être une partie, puis vous marcherez de la même vitesse que les autres, et vous ferez comme ça, toujours de la même manière, et vous mangerez comme les autres mangent, à la même heure que les autres, et non pas du tout quand vous avez faim, mais à la même heure que les autres. Et vous vous leverez à la même heure, alors que de fait, vous avez un rythme biologique tout à fait différent. La vie commune qui passe avant. Alors, le conditionnement l'emporte sur la finalité. Mais le conflit, quand la vie commune est trop serrée, le conditionnement l'emporte sur la finalité, et vous étouffez des êtres qui sont angéliques. Vous les avez mis dans la prison de la vie commune. Philosophiquement parlant, c'est comme ça qu'il faut regarder ce que c'est que le conditionnement de la quantité. Et c'est très bon de le regarder, ça nous libère beaucoup. Parce qu'on dit, oui, après tout, c'est pas étonnant. Je suis tellement angélique, mais c'est pas étonnant que c'est très difficile la vie commune. C'est très, très difficile. Non, il y a quand même au moins ce regard de l'esprit qui, lui, n'est pas enfermé dans la vie commune. L'esprit réclame quelque chose qui est unique, la personne. Alors, on analyse ces choses-là, et c'est important de voir l'analyse philosophique, il faut le faire, et puis le jugement de sagesse. Et distinguer la métaphysique de la sagesse. Et comprendre que la sagesse... C'est quelque chose d'ultime qui, d'une certaine manière, reprend toutes les parties de la philosophie. La métaphysique est un sommet, Mais en tant qu'elle est un sommet, elle se distingue de toutes les autres parties de la philosophie. Et quand j'aboutis à la sagesse, d'une certaine manière, je suis au-delà de toutes les parties. Et j'essaie de regarder tout dans la lumière de Dieu. Et si je regarde tout dans la lumière du Créateur, c'est un autre jugement. Et le côté amour est très présent. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à la quantité. Hein. C'est tout à fait nos moutons. Parce que là, c'est le nombre, hein, c'est le nombre. Essayons de comprendre où se situe exactement cette petite analyse de la quantité. Hein. Alors, là encore, je rappelle. L'intelligence humaine interroge ce qu'est l'homme du point de vue de son exister, du point de vue de son être. Qu'est-ce que c'est que l'homme au point de vue de son exister et au point de vue de son être? Et on découvre à ce moment-là qu'il y a une source fondamentale de toutes les déterminations qui sont en nous, qu'on appelle la substance. C'est capital de découvrir ce que c'est que la substance. On la découvre plus ou moins. On a beaucoup de peine à la découvrir. Il faut bien se dire ça, surtout quand on est en première année de philosophie. Ne vous inquiétez pas, en première année de philosophie, oui, dites, je vois bien, il y a l'âme. Oui, l'âme, je connais à peu près. Mais l'âme et la substance. C'est vrai, je crois qu'on peut tous, quand on a une toute petite vie intérieure, on peut tous arriver à distinguer l'intériorité et l'extériorité. En nous. Et dès qu'on découvre l'intériorité et l'extériorité, on découvre l'âme. Et le corps. Et dès qu'on découvre l'âme et le corps, on peut, avec un certain effort de pensée, comprendre qu'il y a une unité entre l'âme et le corps. Donc il y a un au-delà de l'âme et du corps qui est mon être un. Il n'y a que dans les rêves où votre âme peut se promener toute seule. Quand vous rêvez, votre corps reste là. Partez, quittez. Mais vous savez, c'est pas réel du tout. Et le réel, c'est que vous êtes là. Et vous cohabitez avec votre corps. Vous êtes dans votre corps. Mais il y a une unité d'être. Vous n'avez pas deux êtres en vous. Il y a une unité d'être. Donc, la distinction âme et corps est une distinction tout à fait réelle et qui demande d'être dépassée. Et si je ne dépasse pas la distinction âme et corps, je reste dans un dualisme qui n'est pas vrai. Parce que mon expérience est mon unité. Quand je pense, c'est moi. Quand je mange, c'est moi. Quand je dors, c'est moi. Vous ne dites pas spontanément « Ah, mon corps est fatigué. Mon corps a faim. J'ai faim, je suis fatigué. » Spontanément, vous dites ça. En vous disant, ah oui, j'ai mal à mon bras. Mais mon bras, c'est moi, c'est mon bras. Vous avez cette expérience constante de l'unité de votre être. Et l'unité de votre être, dans une certaine multiplicité, vous oblige de dépasser la distinction âme et corps. Et par là, vous pouvez comprendre un tout petit peu ce qu'est la substance. C'est dans la ligne de l'âme. Oui, c'est dans la ligne de l'âme. C'est bien évident. C'est beaucoup plus dans la ligne de l'âme que dans la ligne du corps. Je ne vais pas chercher la substance dans la ligne du corps, non. Je ne dirais pas que la substance, c'est métacorps. Ça n'a jamais venu à l'idée de faire ça. Parce que alors là, j'aboutirais à la matière. Ce n'est pas la substance. Tandis que je dirais, oui, là, la substance, ça doit être quelque chose qui est dans la ligne de l'âme, source de toutes les déterminations, mais plus radical encore. C'est bien l'âme, mon âme, c'est ma substance. Mais quand je dis que mon âme est ma substance, je ne désigne pas la même chose, je ne saisis pas la même chose que quand je dis l'âme distincte du corps. Je ne peux pas dire la substance distincte du corps. Moi, je ne peux pas dire ça. Ma substance n'est pas distincte de mon corps. Oh, pas commode, hein. On est un peu coincé. C'est le problème, vous savez, que constamment on se pose le problème de l'individuation. Alors très bien, l'analyse scolastique, l'individuation vient de la quantité. L'individuation materia signata. Très très bien, vous mettez des mots, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Votre individuation, c'est votre être. Votre individuation, est-ce que votre individuation fait partie de votre substance? C'est bien évident. C'est bien évident. Votre individualité et votre personne, ça ne fait qu'un. Alors, vous êtes bien obligé d'essayer de comprendre que quand vous dites substance, principe selon la forme de ce qui est, vous devez dépasser l'âme. Et là, il y a une petite réflexion qui est très importante à faire et qui est capitale et facile. On peut tous faire ça. Parce que nous pouvons tous découvrir assez facilement la distinction de notre âme et notre corps. Si vous ne l'avez pas encore faite, il est temps de le faire. Hein. Parce que c'est temps de faire ça. Parce que c'est vrai, c'est très difficile de mener une vie dite spirituelle si vous ne faites pas la distinction de l'âme et du corps. Parce que l'âme intériorité, le corps extériorité, ça c'est vrai. Le corps, c'est ce qui se manifeste. L'âme, je ne dis pas que c'est ce qui se cache, mais c'est quelque chose qui ne se voit pas. Le visible et l'invisible. Tous faire cette petite distinction. Je suis visible par mon corps. Évidemment, je peux mettre un masque et ne pas être visible, mais au fond, je suis visible par mon corps. Tout le monde le sait. Et l'invisible, c'est mon âme. Alors, il faut arriver à ce dépassement de l'ousia. Toujours se rappeler l'ousia pour ne pas rester au mot substance qui risquerait de dire substare. L'ousia, c'est du côté de l'être. Bien, il faut essayer de découvrir que l'ousia, c'est une méta-âme, hein, quelque chose qui est au-delà de l'âme, et qui dans l'âme, c'est pas un autre principe, il n'y a pas deux principes, un principe l'âme, un autre principe de substance, non. Parce que pour moi, ma vie, c'est mon être. Si pour moi, ma vie, c'est mon être, si mon âme est source de ma vie, elle est source de mon être. Et donc, c'est dans le prolongement de l'âme que je vais découvrir ce que c'est que l'ousia, cette source. Non pas de nous, mais d'être, de détermination. C'est ça le l'ousia. Quelque chose qui va permettre de maintenir l'unité. Petit exemple d'Aristote, hein. La substance n'est ni idée ni âme, ni âme ni âme. La substance est source de cette unité. Et la substance est source de l'unité de l'âme et du corps. Mon âme, parce qu'elle est substance, peut justement maintenir l'unité d'être en moi. Si mon âme n'était pas substance, si mon âme n'était que forme, si mon âme était que forme, mon âme viendrait déterminer mon corps, mais elle resterait toujours un peu en dehors. Parce que l'âme est substance, elle peut être source de l'unité des deux. Mais c'est une manière pour nous d'approcher, parce qu'il faut bien essayer d'approcher progressivement ce que c'est que nous y a. Et comme l'âme, la réflexion sur l'âme et du corps, ça c'est du pain quotidien. On sait très bien ce que c'est. Quand on essaie d'être vertueux, on sait très bien qu'on essaie d'acquérir des vertus. C'est dans l'âme. Les vertus, c'est pas dans le corps. La virtuosité fait appel au corps. La virtuosité du mécanicien, la virtuosité du cuisinier, ça fait appel au corps. C'est évident, c'est des mains rigides. Aucune souplesse. Alors, la virtuosité, c'est comme l'incarnation de la vertu. Pour que justement on puisse arriver à quelque chose. Alors vous avez bien ce passage de l'âme et du corps et le dépassement de ces l'ousia. Une fois que vous saisissez ces l'ousia, vous savez que tout l'ousia de la qualité. Vous voyez qu'il y a des qualités qui regardent l'âme et des qualités qui regardent le corps. Tout de suite. Les qualités qui regardent l'âme. Les qualités qui regardent le corps. Disposition. Vous retrouvez à l'intérieur même des qualités, quelque chose qui regarde à la fois le corps et à la fois l'âme. Qualité, vous distinguez la relation. C'est quelque chose d'autre que l'ousia. C'est dans la ligne de l'ousia, la qualité manifeste l'ousia. Ça me fait comprendre ce que c'est que l'ousia. Dès que je regarde la qualité de quelqu'un, je comprends son âme. Tu as des yeux admirables, je vois le fond de ton âme. C'est vrai, ça. Tu as des yeux bleus. Merveilleux. Oh, tu as une âme toute bleue.
C'est extraordinaire de voir comment les qualités manifestent l'invisible. Et en même temps, ne confondons pas. Bon, c'est une manifestation, il ne faut pas confondre la manifestation et la réalité. Les qualités manifestent. Les relations montrent tout ce jeu extraordinaire que la substance peut réaliser. La substance est au-delà de la relation. Parce que la substance, ça nous donne l'autonomie. La relation ne nous donne pas l'autonomie, elle nous met tout le temps relatif à l'autre. Et puis nous avons le troisième lieu, la quantité. Nous avons commencé à étudier la quantité. Je ne vais pas insister beaucoup sur la quantité. Mais je crois que c'est très important de voir tout de suite ces trois grands accidents qui jaillissent de la substance. Ces trois grands accidents, relation, qualité, quantité. Vous voyez que c'est tout à fait différent, parce que la qualité est plus proche de l'âme, la quantité est plus proche du corps. Ça, c'est sûr. Et la relation, elle est quelque chose de second. C'est une qualité, c'est un accident d'un accident, d'une certaine manière. C'est un accident qui ne peut exister, c'est une détermination qui ne peut exister que grâce à un fondement. Donc c'est extrêmement ténu, la relation. Alors là, on pourrait dire, c'est la dentelle de l'être. Hein, voyez, ça, c'est vrai. Il y a quelque chose comme ça dans la relation. Vous essayez de la saisir, vous ne voyez rien. Une dentelle, quand vous saisissez trop. Ça ne va plus du tout. Voilà. C'est au fond, c'est la dentelle de l'être, la relation. C'est cette relation, c'est l'être qui est lié à d'autres êtres. C'est le dépassement d'autonomie, c'est l'éclatement d'autonomie, la relation. Et le fondement de toute relation, c'est la qualité de la quantité. Et le fondement de toute relation, c'est l'action et la passion. Alors, il faudrait étudier plus action et passion pour mieux comprendre ce que c'est que la relation. La relation, vous l'étudiez parfaitement, il faut regarder qualité, quantité, action et passion. Ne le ferons pas. Alors, vous avez qu'à faire même. Nous le ferons un peu quand nous regarderons la métaphysique de l'âme. Et la métaphysique de la puissance. Alors à ce moment-là, nous essaierons de comprendre métaphysiquement, c'est-à-dire dans une lumière de la philosophie première, ce qu'est l'action et la passion. Dès que j'étudie au point de vue métaphysique l'action et la passion, tout de suite, métaphysique de la puissance. Vous voyez, c'est pour essayer de comprendre progressivement ce que nous faisons. Nous essayons d'analyser les déterminations radicales de l'homme. De ce qui est, de ce qui existe. L'ousia, qualité, relation, quantité. La quantité, c'est ce qui permet d'être parti. Très curieux. C'est très curieux. Je constate, hein, je ne dis pas. Dans un jugement de sagesse, il faudra comprendre ce que c'est que la quantité. Jugement de sagesse, on essaiera de comprendre ce que c'est que la quantité. Pourquoi le créateur qui est esprit a-t-il réalisé un monde quantitatif? C'est invraisemblable. C'est vrai, c'est une chose invraisemblable. Comment le créateur qui est pur esprit a-t-il voulu un monde de quantité? Si j'avais donné un conseil, j'aurais dit non. La quantité, c'est effrayant. C'est le domaine du poids, de la lourdeur, du conditionnement. C'est pourquoi ça. Alors, je ne cherche pas ça, vous voyez, je constate ici. Mais il y a une autre question. Et celle-là, il faudra se la poser. Alors, c'est une autre question, c'est une question d'un jugement de sagesse. Et dans le jugement de sagesse, je me pose la question, mais pourquoi la quantité? Et c'est pas si simple que ça d'y répondre. Et il faut y répondre. Pourquoi la quantité? Pourquoi un esprit pur, l'acte pur, qui crée dans sa contemplation, crée-t-il un monde de quantité? Ça, c'est l'imagination de la sagesse de Dieu, invraisemblable. Et des êtres tout petits, des petites mouches, des petits insectes, qui font beaucoup de bruit. C'est extraordinaire. Et puis des gros animaux, non, puis des montagnes. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi ce domaine de la quantité? Oui. Posez-vous la question, ça aide à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la quantité. Parce que pour pouvoir répondre pourquoi la quantité, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la quantité. Qu'est-ce que c'est que la quantité dans la réalité que je constate, c'est-à-dire en moi? Que représente la quantité par rapport à la substance, par rapport à la qualité, par rapport à la relation, par rapport à l'action, à la passion? Qu'est-ce que c'est que ce domaine de la quantité? Alors nous avions vu, très rapidement, mais quand même, je vais situer un peu le problème de la quantité chez Aristote, en disant que Aristote est quand même le premier qui s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'est la quantité. C'est un prédicat, non? Mais quand vous regardez la quantité dans les prédicaments, vous décrivez. Nous voulons essayer d'aller loin et d'essayer d'avoir une philosophie première de la quantité. C'est très audacieux. Aristote ne l'a pas fait. Mais nous devons le faire. Puisque si je n'ai pas une philosophie première d'apprendre, pourquoi le Créateur a-t-il voulu un monde de quantité? Un monde quantitatif. Pourquoi a-t-il créé ce monde de la quantité? Donc je suis obligé de chercher le TST. Qu'est-ce que c'est que la quantité? Par rapport à l'être. Pas par rapport au mouvement, mais par rapport à l'être. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la limite de l'être? Le conditionnement, c'est toujours la limite. Et c'est vrai que la limite, la pérasse, hein, la limite de l'être. Bon. Aristote donc traite la quantité dans les catégories. Il traite la quantité aussi un tout petit peu en métaphysique, en se demandant qu'est-ce que c'est. Il traite de la quantité en philosophie première, il traite de la quantité dans toute sa philosophie, c'est présent dans toute sa philosophie. Continuons. Quantité discrète. Seigneur de Jésus, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit.